session de théologie par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont le 23 août 1993. Deuxième conférence.
Même si je te vois, il marche pas du tout l'enregistrement, sauf sur celui-là.
Oui, ici. Parce que je crois que dans une session de théologie, ce qui est très important, c'est aussi les questions que vous apportez. Parce que la théologie doit se faire, la théologie, pour chacun d'entre nous. Réfléchissez vous-même au point de départ. Quel est actuellement votre regard sur l'Esprit Saint? C'est une bonne question, ça. Ça m'intéresserait de voir ça. On vous laisserait pendant un quart d'heure en silence. Puis, dites, qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint pour vous? Vous devez le faire en tant que la théologie implique une prise de conscience de la révélation dans notre vie et dans notre intelligence. Alors, je vous disais ce matin, en terminant, je reviens un instant là-dessus. C'est pas très répandu ce que je vous dis là. Mais ici, à Saint-Jean, on essaie de le comprendre. Parce que, de fait, ce qui se dit très souvent aujourd'hui, c'est que la théologie est en crise. Je dis pas ça, moi. Mais je dis que la théologie, souvent on dit, la théologie est en crise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne sait plus où on va. Qu'est-ce qu'on enseigne comme théologie à l'Institut catholique de Paris? Qu'est-ce qu'on enseigne? Je ne dis pas parce que je n'y vais pas, mais j'ai des échos. Voyez. Qu'est-ce qu'ils enseignent à l'Institut catholique? Pourquoi le cardinal Lustiger envoie ses séminaristes, non pas à Paris, mais en Belgique? Pourquoi? Est-ce qu'à Rome, il n'y a qu'une seule théologie qui s'enseigne? Poser quand même, hein. On s'intéresse à l'Église. On peut dire que déjà avant le Concile, c'est pas le Concile qui a mis là. Si tout le monde avait vécu bien avant, le Concile aurait été pas très bien. Ça ne pose aucun problème. Il y a des précisions, on peut discuter. Et de fait, bien avant le Concile, je voyais des étudiants, des séminaristes. On peut dire que quand ils quittaient le séminaire, ils brûlaient leur livre de théologie. Feu de joie. Quand même embêtant, ça. Parce que la théologie fait partie de notre vie chrétienne. Alors là, c'était... Je ne parle pas d'un prêtre belge que j'ai connu très peu, mais que le père Braun, la Belgique, qui avait été exégète à Fribourg, voulait que je connaisse. C'était un peu comme le curé d'Ars, un très saint homme, qui avait beaucoup de peine aux études. Alors la très sainte Vierge venait tous les soirs lui donner une petite répétition. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais ce que je sais, que le résultat était bon. À la Sainte-Vierge, je disais, oh, les professeurs, c'est toujours très compliqué. Parce que j'ai retenu, vous comprenez, regardez directement. C'est toujours très compliqué, des professeurs. Et alors, la Sainte-Vierge, je disais, il faut lire ça, ceci. Puis elle faisait une petite répétition, en un quart d'heure. Donc il y avait quatre cours, en un quart d'heure. Vite fait. C'est marial, ça. C'est maternel. Mais c'est quand même intéressant. Parce que je crois que c'est juste, je crois que c'est vrai. Quand je lui ai demandé comment elle était la Sainte Vierge, ça c'est des petits critères très simples. Comment elle était la Sainte Vierge? Elle m'a regardé. Mais vous regardez la vie d'une mère? Ça, j'ai trouvé ça très beau. Je ne sais pas comment elle était. Mais la présence maternelle de Marie était telle que... tout d'un coup, c'était l'hiver, il y avait un feu. Comme j'étais dans le pays de Vine, j'étais un peu de charbon. Et vous savez que dans les feux de charbon, il y a de temps en temps des flammes très lumineuses et très belles, avec des tonalités très étonnantes. C'était comme ça. C'était très joli. C'est-à-dire violet foncier, puis c'était comme ça. Là, ça, c'est pour moi un caractère d'authenticité. Ouais. Ils ne savaient pas. Puis d'un coup, ça revient. C'était juste ça. Tout à fait ça. La remarque qu'on faisait au solfoir chez les Dominicains, pourtant, l'enseignement que j'ai reçu chez les Dominicains au point de vue théologique était très bon. Le père Riz était très bon. Mais le père Riz sentait que c'était la fin. Il me disait tout le temps, vous êtes ma vieille béquille. Je ne sais pas si après. Alors maintenant, ça m'amuse de me rappeler ça. Eh bien, on faisait cette réflexion. Comment se fait-il que les jeunes qui arrivent sont pleins de ferveur après le noviciat, après les années de philosophie, les années de théologie, ils sont beaucoup moins fervents? Ça devrait être l'inverse. Si vous venez vous faire de la théologie, c'est pour avancer plus loin dans la foi. C'est pour aller plus loin dans la foi. C'est pour prier davantage. Comment se fait-il que ces études de philosophie et de théologie faisaient qu'on était moins fervent? Peut-être que la sensibilité affective et imaginative se purifiait. C'était l'expression que donnait un bon père dominicain canadien à propos du traité du Te Deo Uno, le traité de Dieu 1 dans saint Thomas. C'est une purge de l'intelligence, purification d'intelligence radicale. Et donc il y avait peut-être moins de ferveur. Cette crise, elle est vieille. Elle est du siècle dernier, ce qu'on a appelé la crise moderniste. Faut pas l'oublier. Et la crise moderniste, elle était assez forte. Et qu'est-ce que c'était que la crise moderniste? C'était de considérer qu'on ramenait notre adhésion de foi à ce que les sciences disaient. Et c'est à partir de là qu'est née l'exégèse contemporaine. C'est à partir de là. Donc à partir du début de notre siècle et la fin du siècle précédent. Et le père Lagrange a fondé à ce moment-là l'Institut à Jérusalem pour répondre à ce modernisme qui regardait le point de vue de la lecture de l'écriture. Dans l'écriture, oui, c'est symbolique. Tout est symbolique dans l'écriture. Il n'y a aucun réalisme. C'était l'oisir. Et on s'est mis à l'étude de l'écriture à partir du modernisme. Donc le modernisme, c'est de dire que la science est la mesure de toutes nos connaissances. Même les connaissances, même la foi. Oui, donc ça tue la foi. Le modernisme a tué la foi. Et je vous dis, c'est vieux, du moins. Ça fait un siècle. Et beaucoup de choses modernes ne se comprennent qu'en fonction de ça. Dans les études exégétiques d'aujourd'hui, il y a une très grande diversité. Regardez le petit résumé qu'a donné l'abbé Laurentin en travaillant Saint-Luc. Il montre toutes les écoles exégétiques. Et ces écoles exégétiques ont quelquefois le très grand danger d'accaparer la parole de Dieu. Je me souviens, c'est un petit souvenir personnel. les exégètes, c'était après vers, bon, je terminais mes études, vers 36. Et quand je mettais conférence sur, au Solchoir, hein, sur Saint-Jean ou sur Saint-Luc, les bons professeurs d'exégèse soulignaient charitablement en disant, un philosophe, un théologien qui enseigne le dogme n'a pas à parler de la parole de Dieu. Seuls les exégètes peuvent en parler. Alors je me souviens une fois d'une année, c'était une retraite qu'on avait en commun. Un des pères qui, alors lui très très nettement, disant, la parole de Dieu est donnée aux croyants et non pas premièrement aux exégètes. Ça, j'ai retenu. Parce qu'il a, il a enfoncé le clou. Et c'est vrai, la parole de Dieu est donnée aux croyants, aux gens qui croient. Ils ont une instruction, ils n'ont pas d'instruction. Ça importe peu. La parole de Dieu n'est pas du reste entre Seigneur le dit, je te rends grâce. On va enseigner ces choses, non pas aux prudents et aux sages, mais aux petits. Aux petits intelligents qui cherchent à comprendre. La parole de Dieu est donnée aux croyants. Mais alors, à cause du modernisme, qui alors expliquait tout en fonction du milieu, en fonction d'un langage symbolique, la science exégétique est née. Les sciences exégétiques sont nées à partir de là. Pour voir le contexte historique, pour voir la philologie, le sens de la parole par rapport à tout le contexte historique. Et alors on étudiait tout en fonction du milieu, oubliant un peu de regarder la parole de Dieu pour elle-même. C'est sûr, il faut bien reconnaître, que la théologie dite scolastique n'était pas très vivante. On apprenait des conclusions. On apprenait, vous voyez, le catéchisme. C'est comme si on disait, toute la théologie se ramène au catéchisme. Le catéchisme qui vient de paraître. Le catéchisme qui vient de paraître, c'est pour rappeler dans quel sens on doit faire la théologie. Mais ça ne remplace pas la théologie. La théologie est une chose qui se fait tout le temps. Puisqu'on donne son intelligence à Dieu et à la parole de Dieu. Donc la théologie consiste en face du mystère de la parole de Dieu. Bien le mystère de la parole de Dieu. Vous savez bien que l'écriture elle-même définit ce qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est un glaive. La parole de Dieu est vivante. Ça, c'est très important. La parole de Dieu est vivante. C'est pas une parole morte. Qu'est-ce que c'est qu'une parole vivante? C'est une parole qui est liée à sa source. La parole vivante est liée à la source. Quelle est la source de la parole de Dieu? Quelle est la source de la parole de Dieu? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint est source de toutes les inspirations. Donc, il est source de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est donnée par des hommes, par des traditions religieuses. Donc, il y a la source première, l'Esprit Saint. Et puis il y a une source seconde, qui est l'homme, Saint-Luc. Luc a écrit l'Évangile. Quel est l'auteur principal de l'évangile de Saint-Luc? L'Esprit Saint. Mais c'est une manière d'aborder la théologie de l'Esprit Saint. C'est peut-être la manière la plus pratique. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Il est l'auteur de toute la Bible. Il est l'auteur des évangiles, auteur principal. Donc si je veux savoir ce que c'est que l'Esprit Saint, je regarde ce qu'il a réalisé. Qu'est-ce qu'il a réalisé l'Esprit Saint? Il a réalisé le mystère de la parole de Dieu. L'Esprit Saint aurait pu inventer une langue propre qui soit la langue de l'Esprit Saint. Pourquoi pas? Il est assez intelligent. L'Esprit Saint n'a pas inventé de langue. Il s'est servi du langage des hommes. Le langage de Luc, qui n'est pas celui de Jean. Et l'Esprit Saint, en se servant du langage de l'homme, se sert de sa parole. Alors vous voyez, quand Saint-Luc commence son évangile, quand Jean commence son évangile, cet évangile a comme auteur principal l'Esprit Saint, qui est la source principale. Et l'homme, Luc et Jean, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont les instruments cause seconde et instruments de la parole de l'évangile de Luc, de l'évangile de Jean. Et c'est ça qu'on appelle le fait qu'ils sont inspirés par l'Esprit Saint. Ils sont sous la mouvance de l'Esprit Saint. Étant sous la mouvance de l'Esprit Saint, il nous communique ce qu'il découvre sous cette mouvance. Et vous voyez, l'œuvre est commune. L'œuvre, elle vient d'Esprit Saint. L'Esprit Saint se sert de Luc et de Jean, et on a l'Évangile. Qu'est-ce qui vient de Luc? Qu'est-ce qui vient d'Esprit Saint? Très bonne question. J'aimerais savoir vos réponses. Qu'est-ce qui vient d'Esprit Saint? Qu'est-ce qui vient de Luc? Par rapport à l'Évangile. Est-ce que je peux séparer d'une part, je retrouve des redites dans un Jean. Oh, ça, c'est pas d'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'aime pas les répétitions. Donc ça, c'est le style de Jean. Donc c'est Jean. Ah oui, mais c'est Jean inspiré par l'Esprit Saint. Donc c'est l'Esprit Saint aussi. Tout l'évangile de Jean vient de Jean et vient de l'Esprit Saint. Tout. Il y a une coopération des deux. Qui coopèrent l'un et l'autre. Puisqu'ils sont sous l'inspiration. Vous voyez? Alors c'est intéressant de voir que, vous voyez, on dira que Jean est inspiré alors qu'est-ce que c'est qu'inspiration? Platon disait il y a les poètes, les philosophes, les mystiques. Ils sont inspirés. L'inspiration. Et c'est vrai, il y a inspiration de tous ces gens. Un poète est inspiré. Et Jean est inspiré. L'inspiration du poète n'est pas la même que celle de Jean. On a appliqué le mot inspiration aux évangiles, aux prophètes, à tous ceux qui étaient mus par l'Esprit Saint. Vous êtes de temps en temps inspirés. De temps en temps. Et quelquefois sans le savoir. et quelquefois en espérant le savoir. Je crois bien que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça, qui m'a fait comprendre ça. Mais vous voyez, c'est pas entendu une voix. Non. L'Esprit Saint agit de l'intérieur. Il nous inspire. Il ne nous donne pas des mots nouveaux. Nous n'avons pas un langage qui vient d'Esprit Saint. La couche très radicale, très profonde. Les mots splendides de l'Esprit Saint qui reviennent de temps en temps. Mais la parole, l'inspiration. Et tous les problèmes que ça pose dès qu'on parle de parole de Dieu. Et la première fois dans l'Écriture, quand il est dit « Dieu parle à Abraham », mais qu'est-ce que ça veut dire ?« Dieu parle à Abraham ». Est-ce qu'Abraham avait un cornet avec Yahvé ? Il entendait de temps en temps un contact. Non, il est inspiré. Est ému par l'Esprit Saint. Être mu par l'Esprit Saint. Inspiré. Parole de Dieu. Et quand vous écoutez la messe, l'épître, la première lecture, parole de Dieu. Et l'évangile, parole de Dieu. C'est le fruit de l'Esprit Saint, auteur principal, et aussi d'un autre, ou d'une tradition. Les 11 premiers chapitres de la Genèse n'ont pas d'auteur désigné. Ce sont des traditions. Et c'est vrai, on voit bien, c'est des traditions. Des traditions purifiées par l'Esprit Saint, dépouillées par l'Esprit Saint. Ce sont des traditions. Mais c'est toujours le langage de l'homme. L'Esprit Saint n'a pas inventé une nouvelle langue. L'Esprit Saint n'a pas inventé une nouvelle logique. C'est la logique humaine. Et l'Esprit Saint n'a pas donné une nouvelle philosophie. Non. Tout ce qui est dans la Bible est très intelligent. C'est le livre le plus intelligent qui existe au monde. J'ai un ami qui n'est pas très croyant et qui aime follement la Bible. Il est philosophe. Je connaissais quelqu'un en Sorbonne, juive, qui, elle, lisait la Bible et faisait à partir de là la philosophie contenue dans la Bible, une anthropologie. Alors, vous voyez, quand je regarde la parole de Dieu, je vois que la parole de Dieu m'est donnée à travers une histoire. Je ne peux pas nier ça. Tu aurais pu très bien. Le peuple d'Israël, à travers la vie de l'Église. Donc, il y a l'histoire et puis la vie de l'Église. Et puis, la parole de Dieu implique un enseignement. Et la parole de Dieu me conduit à l'amour. Dieu est amour. C'est en ce sens-là que je dis que la théologie, celle que nous essayons de faire ensemble, la théologie a 4 grands niveaux. Et je crois important de préciser ces niveaux. Et nous allons le faire très rapidement. Pour l'Esprit Saint. Quand a été révélé à l'humanité la personne de l'Esprit-Saint. Dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a une révélation explicite de l'Esprit-Saint comme personne? Non. On parlera de l'Esprit de Dieu. On parlera des prophètes qui soudainement sont saisis par Dieu. Et on dit ça d'une façon très très nette à propos de David, par exemple. Subitement, il est saisi de Dieu ou d'un prophète. Ou d'âne qui reçoit un passage très, très spécial. Un homme de Dieu vient trouver Élie et lui dit: ainsi parle Yahvé, ne me suis-je pas clairement révélé à la maison de ton père quand ils étaient en Égypte, esclaves de la maison de Pharaon? Quand on dit Yahvé parle, il parle par l'Esprit Saint, mais on le dit, on l'explicite pas. Abraham, Dieu dit à Abraham. Si Dieu dit à Abraham, il dit par l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas explicité. Dans l'Ancien Testament, la présence de l'Esprit Saint y est. Je peux le dire grâce à la révélation explicite du Nouveau Testament. Pour nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant que catholiques, je dis, il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ça ne fait pas trois dieux, ça ne fait qu'un seul Dieu. Et en Dieu, il y a trois personnes. Comment? Je n'en sais rien. J'essaierai de réfléchir. Donc, je sais, en tant que chrétien, qu'il y a une personne divine qui est l'Esprit Saint. À quel moment cette révélation de l'Esprit Saint comme personne divine s'est faite? Pas dans l'Ancien Testament. Si ce n'est d'une manière très préfigurative, très lointaine. Les trois jeunes gens qui apparaissent à Abraham, c'est peut-être la première préfiguration de l'Esprit-Saint. Vous connaissez l'icône des trois jeunes gens. Et l'Esprit-Saint est un de ces trois. Est-il à la droite du Père? Est-il à sa gauche? Regardez bien. Ils sont trois et ils sont un. Ce n'est pas la révélation de la très sainte Trinité. C'est une révélation lointaine. Quand il est dit, au moment de l'Exode, quand le peuple d'Abraham, du moins la descendance d'Abraham, est depuis 400 ans sous le joug des Égyptiens, on voit ces paroles très étonnantes de Dieu qu'il faut souvent se rappeler. Parce qu'elles sont tellement belles. C'est la vocation de Moïse. Moïse, Exode chapitre 4. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et tout ce qu'il faudrait regarder là autour. Il mena le troupeau par-delà le désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Qu'est-ce que c'est que la montagne de Dieu ? Comme si Dieu avait une petite propriété particulière qui était l'Horeb, la montagne de Dieu. On sait bien, c'est la montagne où Dieu est apparu. L'ange de Yahvé lui dit, lui apparu dans une flamme de feu du milieu du buisson. L'ange de Yahvé, est-ce que c'est une préfiguration d'Esprit Saint ? L'ange de Yahvé, c'est-à-dire l'envoyé de Yahvé, lui apparut dans une flamme de feu. Pour lui donner une mission salvatrice. C'est ce que fait l'Esprit Saint. Vous voyez comme c'est difficile, hein ? Puisque j'ai la révélation parfaite avec Jésus, je peux lire tout l'Ancien Testament dans la lumière du Nouveau. Et à ce moment-là, c'est ce que faisaient les pères de l'Église. Je découvre des quantités de choses qui ne sont pas explicites. Qu'est-ce que c'est que cet ange de Yahvé ? Cet ange de Yahvé qui lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était brûlé par le feu. Mais le buisson n'était pas dévoré. Il était brûlé sans être dévoré. C'est un feu qu'on ne peut pas éteindre. Un incendie dangereux. L'arbre brûle et n'est pas dévoré. Ça dure toujours. Préfiguration de l'Esprit Saint. Préfiguration de la Pentecôte. Tout à fait particulière. Je le dis en fonction de tout ce qui m'a été révélé ensuite. Les exégètes d'aujourd'hui n'aiment pas du tout ça. C'est pas le sens. C'est pas dit. Attention. Alors voilà, la grande exégèse des pères de l'Église. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont le même auteur, l'Esprit Saint. Et cette révélation se fait progressive. Il y a un même auteur. S'il y a un même auteur, c'est normal, quand je regarde le terme, de comprendre le début. L'Esprit Saint peut très bien, dans un langage très maternel, celui qui fait une classe maternelle, normalement, comprend beaucoup plus de choses dans son langage que le petit bonhomme qui l'écoute. Alors, si l'exégète veut être le petit bonhomme à la classe maternelle qui l'écoute, il dira, je ne peux pas parler d'Esprit Saint, il n'est pas révélé encore. Tandis que l'Esprit Saint se révèle tout le temps. Il se révèle à la Pentecôte, mais il se révèle à Moïse. Ah, vous voyez, tous les équivoques qui peuvent exister. Est-ce que je dois lire l'Ancien Testament dans la lumière du Nouveau ? Ou dois-je lire l'Ancien Testament autant que possible ? Je dis autant que possible, en me mettant dans la situation d'Abraham, ce qui est impossible. Comment voulez-vous me mettre dans la situation d'Abraham ? Moi, je trouve ça complètement impossible. Sauf quand il fait la méridienne et qu'il dort. Parce que je crois que je peux être très proche d'Abraham quand il dort. Et que je dors. La culture que j'ai, qu'Abraham n'avait pas, ne change rien au sommeil. Mais quand l'Esprit Saint le réveille. Ah, c'est le même Esprit Saint qui a parlé à Abraham. Je peux écouter ce qu'il a dit à Abraham. Et je peux, moi, comprendre que tout ce que dit l'Esprit Saint, puisque je connais mieux l'Esprit Saint, ce que Dieu dit à Abraham, c'est chargé d'une quantité de choses qu'Abraham ne pouvait pas connaître et que je peux connaître. Vous voyez, toute la difficulté de l'interprétation de la parole de Dieu, elle est là. Alors, les pères de l'Église étaient beaucoup plus simples. Eux, ça ne les gênait pas du tout. C'était le même auteur. À cause de l'exégèse scientifique moderne, qui date d'un siècle, on doit préciser, je fais de la théologie et pas de l'exégèse. Si je fais de la théologie biblique, j'essaie de comprendre comment l'Esprit Saint, auteur principal de la parole de Dieu, ne s'est dévoilé que très, très lentement. Pourquoi ? C'est ça qui est très intéressant dès qu'on parle de l'Esprit Saint. C'est qu'il y a là un problème extraordinairement intéressant. Pourquoi l'Esprit Saint ne s'est pas dévoilé tout de suite ? C'était tellement plus simple. Moi qui te parle, je suis l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu, il connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît qu'il y a en Dieu un Fils. Il connaît qu'il y a en Dieu un Père. C'est pas comme ça du tout qu'a fait l'Esprit Saint. Pourquoi ? Parce qu'il fallait d'abord enseigner le monothéisme. Que Dieu est un en face de tout le polythéisme, en face de tous ces multiples dieux des païens. Et donc pour enseigner que Dieu est unique, il fallait parler du Père, du Créateur, du Seigneur, ni du Fils, ni de l'Esprit. Mais l'Esprit Saint pouvait préparer les croyants à comprendre qu'en Dieu, il y a une vie de lumière, une vie d'amour, qu'il y avait en Dieu une contemplation qui est sa vie. Ça, très bien. Et alors, à ce moment-là, pour celui qui sait qui est l'Esprit Saint dans la foi, autant qu'on peut le savoir, c'est une personne divine, je peux découvrir toutes les préfigurations d'Esprit Saint. Alors, quelles sont ces préfigurations d'Esprit Saint dans l'Ancien Testament ? Ça, c'est très intéressant. Il s'agit de donner les préfigurations de l'amour. Alors, quelles sont ces préfigurations ? Le feu. L'Esprit Saint, c'est le feu. Et dès qu'on parle de flammes de feu, ah, de la nuée avec les flammes de feu, préfiguration de l'Esprit Saint. Autre préfiguration, l'eau. L'eau liée à sa source. L'Esprit Saint purifie comme de l'eau. Le souffle de vie. L'Esprit Saint, c'est le souffle. 1, 2, 3. L'Esprit Saint, c'est aussi le bras, la main de Dieu. De Dieu, le bras. Et suffit de comprendre pourquoi toutes ces préfigurations. L'Esprit Saint, c'est aussi la colombe. C'est aussi l'aigle. Je crois que ce sont toutes les préfigurations. S'il y en a d'autres, vous me le direz. Alors, vous voyez, c'est un langage symbolique qui annonce. Eh bien, toutes ces préfigurations regardent le point de vue de l'amour. Le feu. J'ai mon cœur brûlant quand j'aime. C'est le feu. L'amour purifie. L'eau. L'amour est un souffle. Ça me pousse. Ça me donne des ailes. Quand j'aime, je cours vers celui que j'aime. Un souffle intérieur. Donc ici, je prends les éléments de l'univers. Tout l'univers parle de l'Esprit Saint. Le feu, l'eau, le souffle. Il n'y en a qu'un seul élément qui ne parle pas de l'Esprit Saint, c'est la terre. Vous ne direz jamais que la terre, c'est l'Esprit Saint. Curieux, hein? Pourquoi? Parce que c'est l'élément le plus potentiel, le plus radical, le plus fondamental. Quand vous regardez l'homme, vous voyez la main, le bras, le doigt. Pourquoi? Parce que l'amour nous rend efficaces. L'efficacité provient d'amour. Or, l'homme est efficace par son bras. Il est efficace par sa main. Il est efficace par son doigt. Mais toute efficacité qui se retrouve dans ces symbolismes autour du bras. Vous ne direz jamais que l'Esprit Saint, c'est la tête. Ah, vous voyez peut-être le cœur, hein? Ah, oui, le cœur. L'affectivité et l'efficacité. Dieu nous donnera un cœur nouveau. Il enlevera le cœur de pierre. C'est annoncé de l'Esprit dans les prophètes. Il vous donnera un esprit nouveau et un cœur nouveau. Un esprit, c'est le souffle, l'esprit. Et puis, il y a les animaux. La colombe. Pourquoi la colombe? Parce que l'amour, c'est ce qui est le plus simple. La simplicité de la colombe. On devient naïf quand on aime vis-à-vis de ce qu'on aime. Et puis l'aigle, c'est le regard. L'aigle, la perspicacité de l'intelligence grâce à l'amour. Quand on aime, on veut avoir un regard profond sur celui qu'on aime. Un regard de l'aigle. L'aigle, symboliquement, c'est l'animal qui voit au loin et qui pénètre. C'est très curieux, voyez comment toute cette connaissance symbolique de l'Esprit Saint nous est donnée à travers la Bible. Et dans la liturgie, on retrouve tout cela. Surtout dans la liturgie orientale. Et vous voyez, c'est un langage symbolique. Le langage symbolique ne dit pas la personne. Le langage symbolique montre la fonction. La fonction. Les effets. Les propriétés. mais ne nous dit rien sur la réalité profonde. C'est quand même très intéressant de voir comment Dieu nous a éduqués, comment l'Esprit Saint nous a éduqués maternellement sur ce qu'il est. Éducation tout à fait maternelle par une symbolique de l'Esprit Saint. Si vous en voyez d'autres, je fais exprès de pas tous les nommer. Hein. Oui, vous me les donnerez. C'est intéressant de rechercher ça ensemble. Quels sont les autres symboles de l'Esprit Saint? Ici, on comprend très bien l'union, la chaleur, la pureté, la purification, le souffle. Vous voyez, on trouve toujours le côté affectif et le côté d'efficacité. Toujours. Les deux propriétés d'amour. Quand on aime, on devient efficace. Un cuisinier qui aime son métier et qui aime encore plus ceux pour qui il fait la cuisine devient efficace. Il fait des tas de choses. Il ne met pas seulement trop de sel dans les plats, parce que comme on dit ça, c'est parce qu'il est amoureux, hein, vieux dicton, c'est curieux du reste. Alors on mettrait le sel. Sel, c'est la sagesse. Je ne dis pas que l'Esprit Saint, c'est le sel. Non. C'est la sagesse, le sel. Alors, allons un peu plus loin dans ce texte merveilleux. Moïse se dit: je vais faire un détour pour voir ce grand spectacle. Voilà la prudence de Moïse. Quand on fait un détour, c'est pour ne pas être brûlé. Au feu nouveau, hein, chaque année, quand il y a un immense feu, qu'on va aller prendre le feu. Pas toujours commode, hein, parce que ça chauffe. Et là, on risque, en prenant le feu, de brûler soi-même. Il y avait vie, donc, pour voir ce grand spectacle, pourquoi le buisson ne brûle pas? Il y avait vie, qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. C'est touchant, hein. C'est le côté maternel de Dieu. T'éloigne pas, mon petit. Moïse, Moïse, me voici, dit-il. Alors il dit: ne t'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ah, la sainteté, la terre sainte, peut exprimer quelque chose de l'Esprit Saint. Oui, oui, terre sainte. Pas la terre tout court, mais la terre sainte. Il dit: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ah! Y a-t-il là encore une préfiguration? Pourquoi, dans l'Ancien Testament, Dieu se prononce toujours trois? Abraham, Isaac, Jacob. Il y a sûrement une raison. Abraham, Isaac provient d'Abraham et Jacob provient d'Isaac. Et le petit-fils très lié à son père, à son grand-père. Il y a une triple paternité. Et je crois que c'est une préfiguration de l'Ancien Testament, c'est une préfiguration de la très sainte Trinité. Les trois. Abraham, c'est pas pour rien, vous voyez. C'est quand même très significatif de voir que Dieu se dit le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Sur sa carte de visite, Dieu dit ça. Il n'a pas besoin de ça. Vous voyez, Dieu qui se met en référence. Abraham, Isaac et Jacob. Préfiguration. Il avait dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu sa clameur devant ses surveillants. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un pays bon et vaste, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Et ainsi de suite. La grande révélation de la miséricorde de Yahvé. Alors, est-ce que là, ne touchons pas à quelque chose de très, très intime en Dieu? La vulnérabilité de Dieu qui a entendu les cris de son peuple. Il y a un autre lieu, parce que je crois que c'est quand même quelque chose de très important. C'est dans la Genèse. Donc j'ai tort de dire qu'il n'y a pas de révélation de la très sainte Trinité. D'abord, il y a les trois. Je n'ai pas explicite. Abraham, Isaac et Jacob. Et quand vous voyez que Abraham demande, que Dieu demande à Abraham, après que Sarah l'a mouru, d'écarter le petit Ismaël, de peur que l'héritage soit divisé. Et le petit Ismaël s'en va de très grand matin avec une petite provision d'eau donnée par Abraham. Sarah n'est pas présente au départ de qu'Abraham. Et quand la provision d'eau est terminée, le petit Isaac gémit. Il pleure comme un enfant qui a soif. Et sa mère, pendant un certain temps, écoute ses gémissements. Et la patience de la mère est limitée. Et quand elle n'en peut plus, elle s'écarte, elle s'éloigne. Et c'est Dieu qui entend le cri de l'enfant. Et Dieu qui entend le cri de l'enfant. Alors, est-ce que ce n'est pas, là encore, une préfiguration dans le mystère de Dieu, de sa vulnérabilité, de son écoute, de sa proximité, de sa présence pour nous? Vous voyez, je crois que ce sont les quelques grandes préfigurations. La dernière, c'est l'Esprit de Dieu qui prend possession des prophètes. Alors ça, vous l'avez pour tous les prophètes. Voilà ce que l'histoire sainte nous dit de l'Esprit Saint. Nous verrons tout à l'heure comment la grande révélation de l'Esprit Saint se fait dans la nouvelle alliance.